Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours, comme on le dit tout le temps, que c'est une grande joie et un bonheur pour nous de nous retrouver ensemble autour de notre Seigneur Jésus-Christ pour non seulement le glorifier, l'adorer, le louer, mais pour l'écouter aussi. Mais avant tout cela, nous allons d'abord prier. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, oui, c'est une grande responsabilité de se tenir devant ton peuple. Ce peuple pour qui tu as payé un grand prix à Golgotha. Qui suis-je pour me tenir devant ce peuple? Seigneur, je m'abandonne à toi et je me tiens au pied de la croix de Jésus-Christ afin que toi seul, tu puisses parler au-dedans de moi et que ta parole, Seigneur, puisse être comprise par ton peuple. Merci pour toutes choses au nom de Jésus. Amen. Nous allons, frères et sœurs, lire un passage que nous connaissons très bien, un passage qui se trouve dans le Nouveau Testament, un texte que nous lisons beaucoup pendant la fête ou pendant la période de Pâques, pendant la crucifixion de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas un texte qui est réservé seulement au mois d'avril, qu'on peut prêcher au mois d'avril. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit être méditée tous les jours, quel que soit le moment, quelle que soit la période. Et c'est ce texte-là que nous voulons méditer tous ensemble ce matin. Donc je vous invite alors d'ouvrir nos Bibles. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, Matthieu 27, le verset 15 à 26. L'évangile de Matthieu, chapitre 27, du verset 15 jusqu'au verset 26. Nous lisons la parole de Dieu pour sa seule et unique gloire. Le verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit : « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ces justes. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit : Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? Ils répondirent : Barabbas. Pilate leur dit : Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ? Tous répondirent : Qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit : Mais quel mal a-t-il fait ? Et ils crièrent encore plus fort : Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit : Je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit : Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de vers Jésus, il le livra pour être crucifié. Jusque-là, la parole de Dieu. Le titre de notre méditation ce matin, Que feras-tu de Jésus? Que feras-tu de Jésus? Vous savez, frères et sœurs, on trouve dans la parole de Dieu beaucoup de questions importantes pour la vie qui méritent toute notre attention. Pilate posa cette question à la foule. Que ferai-je de Jésus qu'on appelle Christ? Que ferai-je de lui? La question posée par Pilate est une question à laquelle chacun de nous est confronté chaque jour dans sa vie chrétienne. Chaque jour de notre vie chrétienne. Qu'est-ce que nous faisons de Jésus-Christ? C'est une bonne question pour nous ce matin. Nous ne pouvons nous empêcher d'y répondre. Impossible. Nous ne pouvons pas nous échapper à répondre à cette question. Pourquoi? Parce que cela détermine si nous suivons Jésus-Christ ou non. Que feras-tu de Jésus? En présence de la foule et en présence de Pilate, d'après le texte que nous venons de lire, nous avons deux personnes qui sont en leur présence, deux personnes radicalement opposées. Un pécheur violent face au Fils du Dieu vivant. Voilà les deux personnes qui se trouvaient devant Pilate et devant la foule. Nous savons bien sûr qui est Jésus, le Fils du Dieu vivant. Pas un homme violent, mais le prince de la paix. Barabbas était violent, mais Christ c'est le prince de la paix. Comme la parole de Dieu nous le dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Le prince de la paix face à un pécheur violent. Deux personnes se tiennent devant Pilate et devant la foule. Il y a le Fils de Dieu, non un meurtrier. Le Fils de Dieu, pas un meurtrier, il n'est pas meurtrier. C'est lui qui ôte la vie des autres. Mais c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui ramène les morts à la vie. C'est celui-là, cette personne qui se trouve devant Barabbas. Et la Bible nous donne très peu de détails sur Barabbas, à part son nom et une liste de crimes dont il est accusé. La Bible se limite là. En dehors de ça, nous ne savons pas grand-chose. Oui, c'est un homme violent, rempli de haine, un meurtrier dont les mains sont tachées du sang des innocents. Il est dit dans Marc, chapitre 15, verset 7, voici ce que Marc dit, chapitre 15, le verset 7, l'évangile de Marc dit ceci, « Il y avait en prison un nommé Barabbas, ses complices. Pourquoi ils étaient en prison? Pour un meurtre qu'ils avaient commis lors d'une meute. C'est grave. Un meurtrier. Et dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 18, le verset 40b, vers la fin, l'évangile de Jean nous dit ceci, Barabbas était un brigand. Il était un brigand. Malgré cela, la foule réclame la mort, non pas de Barabbas, mais de Jésus-Christ. En ce qui concerne la justice humaine, Barabbas aurait dû être crucifié et non Jésus-Christ. Et non Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui fut crucifié. Mais dans tout cela, frères et sœurs, nous voyons la sagesse et la grandeur de Dieu qui a pu utiliser les mauvais choix de la foule insensée, si on peut dire comme ça, de la foule insensée, pour apporter le salut au monde. Oui, nous allons méditer sur trois questions. Sur trois questions que Pilate a posées à la foule présente lors du procès de Jésus. Et ces trois questions, frères et sœurs, comme on l'a dit, doivent encore être posées aujourd'hui, qu'on le souhaite ou non, qu'on le veuille ou non, consciemment ou inconsciemment. Ces trois questions doivent être posées aujourd'hui. Et qu'on le veuille ou non, nous répondrons à ces trois questions. À ces trois questions. Et ces trois questions que Pilate a posées à la foule présente lors du procès de notre Seigneur constituent aussi les trois points que nous allons méditer ensemble. Premièrement, les choix entre Barabbas et Jésus-Christ. Deuxièmement, que feras-tu de Jésus? Que feras-tu de Christ? Et enfin, l'ignorance de la foule. Alors, la première question, le choix entre Barabbas et Jésus-Christ. Nous lisons au verset 15 de Matthieu 27. À chaque fête, le gouverneur avait comme coutume de relâcher un prisonnier. C'est lui que demandait la foule. C'est lui que demandait la foule. Et l'un des hommes en attente d'exécution qui était en prison était Barabbas. Un homme qui avait été jeté en prison pour une meute qui avait eu lieu dans la ville. Et pour meurtre. C'est pour cela qu'il était en prison. Et la première question sur laquelle nous voulons réfléchir aussi ensemble, la Bible dit, Pilate prena la parole et leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Lequel des deux ? C'est une question que chacun de nous doit se poser ce matin. Barabbas ou Jésus-Christ. Alors, concernant Pilate, trois choses avaient attiré son attention avant de consulter la foule, avant de demander l'avis de la foule. Il y a eu trois choses qui ont essayé de traverser son esprit. Quelles sont ces trois choses? Premièrement, comme le dit le verset 18, toujours du chapitre 27, Pilate savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. La première chose qui a attiré l'attention de Pilate. Deuxièmement, il est dit dans Matthieu 27, le verset 19, Sa femme a fait un mauvais rêve et lui fit dire ceci, qu'il n'y ait rien entre toi et ses justes, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. La deuxième chose qui a attiré l'attention de Pilate. Et la troisième chose qui a attiré l'attention de Pilate, Matthieu 27, le verset 20, il est dit ceci, les principaux sacrificateurs et les anciens ont poussé la foule à choisir Barabbas. Voilà les trois choses qui ont attiré l'attention de Pilate. J'ai dit, il faut que je me réveille un peu là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, Pilate ne voulait pas crucifier Jésus-Christ. Il savait qu'il était innocent de tout crime méritant la crucifixion. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il présenta Barabbas à la foule comme un moyen qui lui permettait d'échapper à sa responsabilité dans cette situation. C'est pour cela qu'il a présenté Barabbas à la foule. Il trouvait un moyen pour essayer un peu de... Bon, c'est pas moi, il essaie un peu de s'échapper de cette situation. Oui, le peuple devait choisir entre un meurtrier et un innocent. Le peuple devait choisir entre les ténèbres et la lumière. La foule devait choisir entre le bien et le mal. Mais la foule a choisi Barabbas. Laissant Pilate à son problème de savoir quoi faire de Jésus-Christ. Quoi faire de Jésus-Christ? Des fois, dans la vie, nous nous retrouvons dans des situations comme ça. Après, on te dit, bon, ben, tu te débrouilles. En quelque sorte, c'est ce que la foule a fait. Débrouille-toi avec Jésus-Christ. Mais, frères et sœurs, considérons les conséquences du choix de la foule. Pour elle, cela signifiait assumer la culpabilité de la mort de Jésus-Christ. Parce qu'il nous a dit que tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est cela que ça voudrait dire. La foule voulait la mort de Jésus-Christ et ne se souciait pas de ce que cela signifiait pour elles et pour leurs enfants. Vous savez, frères et sœurs, Dieu a toujours demandé à l'homme de faire un choix dans sa relation avec lui. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu demande toujours à chacun d'entre nous, comme nous sommes là, de faire un choix dans notre relation avec lui. Dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19, l'Éternel demande à son peuple de faire un choix. Nous lisons ce passage dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19. L'Éternel demande à son peuple de faire un choix à 10 ans, le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre que j'ai mis devant toi, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Mais qu'est-ce que la foule a dit? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. en d'autres termes, que la malédiction retombe sur nous et sur nos enfants. Mais ici, dans Deutéronome, l'Éternel dit, choisis la vie afin que tu vives non seulement toi, mais aussi ta postérité. Oui, frères et sœurs, choisir Christ, c'est lui faire confiance. Choisir Christ, c'est lui obéir. Et non seulement cela pour nous aujourd'hui, c'est aussi être membre du corps du Christ, c'est-à-dire son Église. C'est aussi porter sa croix et suivre les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Barabbas, quand nous disons Barabbas, il y a une pensée qui traverse notre esprit. Barabbas, nous voyons cette pensée, le choix du monde. C'est le choix du monde, Barabbas. Le monde choisit Barabbas. Pourquoi ? Parce que le monde préfère toujours ceux qui désobéissent à Dieu, même aujourd'hui. Le monde choisit toujours ceux qui désobéissent à Dieu, plutôt que de choisir ceux qui sont fidèles au Seigneur. Christ n'aurait jamais dû être le choix du monde. C'est pour cela qu'ils l'ont crucifié. Pilate savait qu'il était innocent, mais il a cédé sous la pression de la foule. Alors pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Mais cette question peut être posée dans un autre sens, présentement, pour nous qui sommes là. Cette question peut avoir une autre tournure qui signifie quelle vie souhaitez-vous vivre? La vie de Barabbas ou la vie de Jésus-Christ? Parce qu'il faut faire un choix. La foule devait faire un choix entre Barabbas et Christ. Pour qu'il soit condamné à mort ou pas. Mais pour nous aujourd'hui, nous pouvons aussi nous poser cette question. Quelle vie voulez-vous vivre? La vie de Barabbas ou la vie de Jésus-Christ? C'est la question qu'on doit se poser ce matin. Et à cette question, chacun de nous doit répondre. Vous avez une réponse dans votre cœur. J'ai une réponse dans mon cœur par rapport à cette question. Lorsqu'on vous demande, ou lorsqu'on nous demande de choisir entre Jésus et quelqu'un d'autre, nous faisons un choix qui affectera toute notre vie. Un choix qui affectera toute notre vie. Pour la foule, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Dans Deutéronome, Dieu dit, choisis l'Éternel et tu vivras, toi et tes enfants. Deux vies opposées. Frères et sœurs, selon notre réponse, nous vivrons soit l'un de deux modes de vie. Selon ta réponse comme tu es là, selon ma réponse comme je suis là, je vivrai l'un de deux modes de vie. Premièrement, une vie de péché et de rébellion envers Dieu, comme Barabbas. Une vie sans paix, car la Bible dit, il n'y a point de paix pour les méchants. Ésaïe 48, 22. Il n'y a point de paix pour les méchants. Et une vie sans espérance et sans Dieu. Sans espérance et sans Dieu. Et le deuxième mode de vie, une vie de salut et de bénédiction de Dieu pour celui qui choisit Jésus-Christ. Une vie de salut et de bénédiction. Une vie de paix et d'espérance. Une vie de paix, pourquoi? La Bible dit, car la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, pour celui qui choisit Jésus-Christ, ce mode de vie. Quelles que soient les circonstances, qu'il neige, qu'il pleuve, la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et aussi, une vie pleine d'espérance. Pourquoi d'espérance? Car il y a un héritage qui est réservé dans les cieux pour celui qui choisit Jésus-Christ. Voilà les deux modes de vie. C'est à toi de choisir, c'est à moi de choisir. Pilate avait donné le choix à la foule. Et notre Seigneur veut que tu puisses choisir aussi. Quel mode de vie veux-tu vivre ici-bas? Vous savez, aujourd'hui, c'est facile pour nous de condamner le choix de la foule, hein, de l'époque. Ah ouais, ils ont mal fait, ils ont mal choisi. Oui, c'est vrai. Mais examinons-nous un instant, frères et sœurs. Qui choisissons-nous à la place de Jésus-Christ à certains moments de notre vie? Qui choisissons-nous? Nous sommes au travail, à l'université, au collège, à la maison, chez Carrefour, dans le quartier. Qui choisissons-nous à certains moments de notre vie? Combien de fois, frères et sœurs, nous avons fait le choix et avons choisi quelqu'un ou quelque chose d'autre plutôt que Jésus-Christ? Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Combien de fois nous avons fait des mauvais choix dans notre vie? Au lieu de choisir Jésus-Christ, réagir comme Jésus-Christ, nous avons choisi autre chose que Jésus-Christ. Et que, qui sera alors la fin? Pour nous qui connaissons la vérité et préférons toujours le choix du monde. Quelle sera la fin pour nous? C'est à toutes ces questions-là, frères et sœurs, que nous devons nous poser. Vous savez, quand je méditais ces passages sur le choix que nous faisons dans notre vie, je pense que chacun de nous doit se retrouver là-dedans. Chacun de nous se retrouve là-dedans. Mais nous devons nous ressaisir. De faire toujours un choix qui glorifie le Seigneur. Un choix qui donne l'honneur à notre Dieu. Parce que c'est ce mode de vie que le Seigneur veut pour nous. La deuxième question le deuxième point, la question... Et celle-ci, que feras-tu de Jésus? Ou que fais-tu de Jésus? C'est notre deuxième point. Que feras-tu de Jésus-Christ? Ce que tu fais de Jésus déterminera ton avenir. Ce que tu fais de lui aujourd'hui déterminera ton avenir. Ton choix d'aujourd'hui déterminera ton avenir. Pilate demande à la foule, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Comme à la première question, la même question nous est posée encore aujourd'hui. Et nous devons prendre une décision sur ce que nous ferons ou nous faisons de Jésus-Christ aujourd'hui. Chacun d'entre nous sera un jour tenu responsable de ce qu'il a fait personnellement de Jésus-Christ. Chacun d'entre nous rendra compte, sera tenu responsable, pas collectivement, mais individuellement, personnellement, de ce que tu as fait de Jésus-Christ dans ta vie. Notre réponse à cette question, comme on a dit, déterminera ce que Jésus-Christ est vraiment pour nous. Ta réponse, ma réponse à cette question, qu'est-ce que je fais de Jésus-Christ, déterminera ce que Jésus-Christ est pour moi dans ma vie. Vous savez, dans Matthieu chapitre 16, versets 15 à 16, le Seigneur Jésus-Christ a posé cette question aux disciples. Il leur a posé la question suivante. Qui dites-vous que je suis pour vous? Qui dites-vous que je suis pour vous? Il y a certains qui ont dit ceci, d'autres qui ont dit cela. Mais Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà ce que Jésus était personnellement pour Pierre. Voilà ce que Pierre faisait de Jésus-Christ. Il dit, tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et frères et sœurs, l'Éternel veut que ce soit aussi notre réponse ce matin de ce que tu fais de Jésus-Christ aujourd'hui. Alors, Pilate, se tenant devant la foule, avec une décision à prendre, que va-t-il faire? Que va-t-il faire de Jésus-Christ? Est-ce que fera-t-il ce qui est populaire? Parce que ce qui est populaire, c'était quoi? La foule avait fait de Jésus-Christ ce qu'elle voulait. C'était ça qui était populaire. Est-ce que Pilate va suivre les choix de la foule? C'était la décision à laquelle il était confronté. Va-t-il suivre l'opinion populaire ou pas? Vous savez, étant enfant de Dieu, nous pouvons nous poser cette question. Suivons-nous toujours l'opinion populaire dans notre vie chrétienne? Parce que nous voyons dans ce monde, des fois, on suit l'opinion populaire, la pensée populaire. Tout le monde s'habille avec une casquette retournée derrière, allez, hop, tous. On suit. Tout le monde s'habille d'une certaine manière. Allez, hop là, on y va. Tout le monde, l'opinion populaire, parle d'une certaine manière, utilise certains termes. Allez, on s'y met. C'est ça, suivre l'opinion populaire. Alors Pilate, va-t-il suivre la foule? La foule a dit, non, nous voulons Barabbas. Va-t-il suivre cette opinion populaire? Mais n'oublions pas, frères et sœurs, comme on l'a dit, ce que nous faisons de Jésus-Christ détermine ce que nous sommes. Que feras-tu de Jésus? Vous allez le recevoir ou vous allez le rejeter? Jean chapitre 1, le verset 12 nous dit ceci. L'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 12 dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui le reçoivent, ceux qui l'acceptent. Nous pouvons répondre en disant, j'accepte Jésus-Christ comme étant mon Seigneur et Sauveur. Ou je peux le rejeter aussi, qui n'est pas mon Seigneur et mon Sauveur. Je fais de Jésus-Christ, que feras-tu de Jésus-Christ? Je fais de Jésus-Christ dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Tout comme je ne le fais pas, je le rejette, qu'il n'est pas mon Seigneur et mon Sauveur. Mais en disant que je l'accepte comme étant mon Seigneur et mon Sauveur, je fais de lui dans ma vie mon Seigneur et mon Sauveur, frères et sœurs, je dois le suivre, je dois l'obéir et je dois le servir. Ce n'est pas seulement je fais de lui mon Seigneur et mon Sauveur et je m'arrête là. Non, non. Je dois le suivre, le servir et obéir à sa parole. Et marcher selon ses ordonnances. Je dois lui faire confiance au Seigneur, comme ce brigand sur la croix à Golgotha qui a fait confiance au Seigneur. C'est ça que ça voudrait dire, que je fais de Jésus-Christ mon Seigneur et mon Sauveur. Les rejeter comme la foule a fait, signifie quoi? Signifie on est perdu. Et quand on est perdu, la Bible dit, on a pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur. C'est ça que ça signifie quand on rejette Jésus-Christ. Quand on ne fait pas de lui son Seigneur et son Sauveur. Jean chapitre 12, le verset 48, nous lisons ceci. Jean 12, le verset 48, la parole de Dieu dit, le verset 48, « Celui qui me rejette et ne reçoit pas ma parole à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Voilà si on rejette Jésus-Christ. C'est sa parole. Qui sera ton juge. Parce que tu ne diras pas que non, je ne savais pas. Tu ne diras pas que non, je n'ai pas été prêché sur ça. Tu ne diras pas que, ah non, je n'ai jamais entendu parler de cela. Tu ne diras pas non, on ne m'a pas demandé de faire un choix ou de faire Jésus-Christ mon Seigneur et Sauveur. Mais la parole de Dieu dit, c'est lui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles. À son juge, la parole que j'ai annoncée et la parole qu'il a annoncée se trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et cette parole est prêchée jour après jour. Alors, que fais-tu de Jésus-Christ? Il y a aussi cette possibilité, vous ne voulez pas le recevoir, ça voudrait dire que vous le rejetez. Ou soit, vous le recevez, vous l'acceptez, vous faites de lui votre Seigneur et Sauveur, mais vous pouvez aussi vous moquer de lui, comme nous le voyons dans ce monde aujourd'hui. Beaucoup de gens se moquent de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous moquer de lui. Et quand Christ était arrêté, quand Christ était jugé, beaucoup se sont moqués de lui. C'est ce que firent les principaux sacrificateurs et les anciens. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 26, les versets 67 à 68, je vais lire pour vous. Matthieu 26, les versets 67 et 68, il est dit ceci. Là-dessus, les principaux sacrificateurs et les anciens lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups, des poings et des soufflets en disant, « Christ, prophétise, dis-nous, qui t'a frappé ?» Voilà comment ils se moquaient de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de la même manière aujourd'hui, beaucoup de gens se moquent et méprisent le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Il y avait une fois, à l'époque, on faisait la distribution de traités bibliques au marché d'Estaing. Il y a quelqu'un qui nous a dit, quand on distribuait, « Est-ce que vous êtes payé pour ce que vous faites là ?» Je dis, « Mais non, mais on le fait pour notre Seigneur Jésus-Christ. » Il dit, « C'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Jusqu'à présent, vous êtes toujours abrutis comme ça. » On nous traitait des gens qui sont malades, qui ne sont pas intelligents, qui sont des abrutis. Ils se moquent du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi vous faites ça? Ça ne sert à rien. Si Dieu existe, pourquoi ceci? Ils commencent à dire tas de choses. Tout un tas de choses. Oui, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui se moquent et méprisent Jésus-Christ, comme c'était le cas avec les principaux sacrificateurs et les anciens. Oui, vous pouvez vous moquer de lui et les mépriser. Mais si vous le faites, frères et sœurs, vous avez rejeté l'amour et le salut que le Seigneur vous offre. C'est ça que ça signifie. Se moquer de lui, le mépriser, c'est rejeter l'amour et le salut que le Seigneur nous offre. Il y a aussi autre chose. Vous pouvez faire semblant d'être neutre. C'est ce que Pilate a fait. Vous pouvez faire semblant de ne pas prendre une décision et d'être neutre. Et qu'est-ce que Pilate a fait? Au verset 24 de Matthieu 27, il est dit, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent de ces justes. Ça vous regarde, ce n'est pas mon problème. Ça vous regarde. » Et au verset 24, nous voyons qu'il est ni pour ni contre, il est neutre. Ça vous regarde. Je me lave les mains. Vous savez, frères et sœurs, répondre par la neutralité signifie rejeter Christ. Signifie rejeter Christ. Il n'y a pas de terrain neutre. Il n'y a pas de terrain neutre dans notre vie chrétienne. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, bon, des fois moi, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, un coup je crois, un coup j'ai des doutes. Non, il n'y a pas de terrain neutre. Matthieu 12, verset 30, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, verset 30b, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Voilà ce que le Seigneur dit. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, tu ne peux pas être neutre. Je ne peux pas être neutre. Je dois prendre une décision, une position de ce que je fais de Jésus-Christ. Ne pas prendre une position pour Christ, c'est décider contre lui. Et nous pouvons revenir sur Pilate. Pilate ne pouvait pas être neutre. Il doit prendre une décision. Et il savait que la décision lui appartenait et non à la foule. Et non à la foule. Cherchant à être accepté par la foule, il a rejeté Christ. Parce qu'il voulait être accepté par la foule et il ne voulait pas avoir de problème avec le roi, avec son supérieur. Il dit, bon, je ne me prononce pas. Mais le fait de ne pas se prononcer, c'est rejeter Christ. C'est rejeter Christ. Oui, il a accepté de plaire à la foule. Combien de fois nous faisons la même chose aussi pour plaire aux autres, pour être accepté par les autres? Vous savez, nous au travail, on a des fois des choses, bon, je pense que tout le monde, hein, des fois il y a des choses où certaines personnes font, bon, dans son cœur il ne veut pas, mais il fait seulement pour être accepté dans le groupe, pour être accepté par ses collègues, pour être accepté par ses amis. Et ça, c'est dangereux, frères et sœurs. En faisant cela, c'est dangereux. Il n'y a pas de compromission à faire. Soit vous faites de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur avec un mode de vie de notre Seigneur Jésus-Christ, un mode de vie selon la parole de Dieu, ou soit vous dites non, il n'y a pas de juste milieu. Nous avons le troisième point, c'est l'ignorance de la foule. Et dans l'ignorance de la foule, nous avons la troisième question que Pilate a posée. Le verset 23 de Matthieu 27, ne pouvant pas justifier la crucifixion de Jésus-Christ, Pilate demanda à la foule, et c'est la troisième question, quel mal a-t-il fait? Quel mal a-t-il fait? C'est ce que Pilate demanda à la foule. La première question, c'était, lequel de deux je dois vous relâcher? La deuxième question, c'était, que faire de Jésus-Christ, qu'on appelle le Christ? Que dois-je faire de lui? Et la troisième question, quel mal a-t-il fait? Et il n'y a eu aucune réponse de la part des foules. La seule réponse à cette question de la part des foules, c'est crucifiez-les, crucifiez-les, crucifiez-les. L'évangile de Luc dit que Pilate a déclaré Jésus innocent à trois reprises, d'après l'évangile de Luc. À trois reprises, Pilate a déclaré Jésus-Christ innocent. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun mal. Quel mal a-t-il fait? Il n'y avait rien. Et si nous voyons dans Luc chapitre 23, Pilate dit au verset 4 du chapitre 23, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Ça, c'est au verset 4. Au verset 14b, Pilate dit, je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Et au verset 22, encore Pilate qui dit, je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Quel mal a-t-il fait? Rien. Rien du tout. Oui, mais Pilate pensait qu'il pouvait punir Jésus-Christ et le libérer, puisqu'aucun crime justifiant la peine de mort n'avait été commis. Alors, frères et sœurs, revenons sur cette question. Quel mal a-t-il fait? Quel mal Jésus-Christ a-t-il fait? Parce que cette question s'adresse non seulement à celui qui rejette Christ, mais à celui aussi qui accepte Jésus-Christ comme étant son Seigneur et Sauveur. Cette question nous est adressée aussi. Quel mal nous a-t-il fait? Pour ceux qui choisissent Jésus-Christ, nous pouvons aussi dire ceci. Quel mal Jésus-Christ a fait, ma sœur, mon soeur, mon frère, pour que tu te sois éloigné de Jésus-Christ, pour que tu te sois éloigné de ton église. Quel mal Christ vous a-t-il fait qui vous a poussé à vous éloigner de lui? C'est cette question que nous devons nous poser, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme étant notre Seigneur Sauveur. Les gens avancent plusieurs raisons. Ah, il y a ceci, ah, cela. Ah. Mais ce matin, le Seigneur nous pose cette question. Moi, le Seigneur, quel mal je t'ai fait pour que tu puisses t'éloigner de moi? Quel mal je t'ai fait? Frères et sœurs, il nous a sauvés alors que nous méritions la mort. Il nous aime et pourvoit à tous nos besoins. Nous devons le savoir. Et notre sœur, dans sa prière, a dit, nous devons être conscients de ce qu'il a fait pour nous. Alors, posons-nous cette question. Quel mal t'a-t-il fait qui t'a poussé à t'éloigner de lui? Quel mal? Quel mal, frères et sœurs? Nous allons conclure en ce terme. Barabbas est coupable de plusieurs crimes, c'est vrai. La foule est coupable d'avoir choisi Barabbas plutôt que Jésus-Christ. Pilate est coupable d'avoir condamné à mort un innocent. Seul Jésus-Christ est innocent, mais Pilate le livre pour qu'il soit crucifié. Nous savons que c'était le plan de Dieu. Mais que fais-tu de Jésus-Christ maintenant? La façon dont nous répondrons à cette question détermine ce que nous sommes. La façon dont tu réponds à cette question intérieurement, là où tu es, là où je suis, la façon dont je réponds à cette question détermine, moi, Marcel, qui suis-je? Qui suis-je? Allons-nous réagir comme Pilate? Je me lave les mains, cela vous regarde, ça ne me regarde pas. Une façon de ne pas répondre à la question, une façon d'esquiver la question. Allons-nous répondre comme la foule? Crucifie-le, ce qui signifie rejeter Christ et le salut qu'il nous offre. Mais nous ne pouvons pas non plus aussi être neutres. Car un jour, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains 14, 12. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Tu ne rendras pas compte à Dieu parce que un tel, ou non, tu rendras compte à Dieu pour toi-même, pour moi-même. Seul Dieu et vous, seul Dieu et moi, seul Dieu et nous savons ce que nous faisons de Jésus-Christ dans notre vie. Je finirai par ces quelques paroles d'un cantique que nous chantons souvent. Que feras-tu de Jésus, lui qui t'a racheté? Que feras-tu de Jésus, lui qui a pris ta place? Que feras-tu de Jésus, le maître souverain? Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Nous savons que tu nous aimes tant. Nous savons que tu t'es donné pour nous à Golgotha. Nous savons que tu as quitté la gloire céleste et venu vivre un homme de douleur ici-bas à cause de nous et pour nous. Permets que nous soyons conscients de toutes ces choses et que nous puissions faire de toi notre Seigneur, notre Sauveur et que nous puissions mener une vie qui t'honore et qui te donne la gloire. Au nom de Jésus. Amen.